À tous les fidèles auditeurs et auditrices de FM+, qui avaient l'habitude de nous écouter à cette heure-ci, l'équipe de la radio a la grande tristesse de vous faire part du décès de Georges Butet, survenu le 23 octobre dernier. Georges Butet, né le 30 août 1929, fut toute sa vie un artisan de paix, solidaire actif des causes humaines et animales, respectueux de la terre nourricière. Georges était homme à ancrer ses convictions spirituelles au cœur de son quotidien. Georges Butet animait depuis de nombreuses années cette émission hebdomadaire dédiée aux agriculteurs et agricultrices de la Confédération paysanne. Nous présentons nos sincères condoléances et pensées de soutien à son épouse et à sa famille. Valdo Pellegrin vient de publier « Montpellier, de savants en découverte » aux éditions Alcide, livre que nous avons présenté sur cette antenne, sur FM+, au mois d'octobre. En 18 épisodes, du square Planchon à l'école supérieure d'agronomie Place Viala, Valdo Pellegrin traque médecins, chimistes, scientifiques qui font l'histoire urbaine de Montpellier.
Chers amis auditeurs, bonjour. Nous allons poursuivre maintenant notre périple à travers les rues de Montpellier et arriver au bas de la Grand Rue sur une place qui s'appelle la place Édouard Adam. Alors pour beaucoup de Montpelliérains, Édouard Adam est un illustre inconnu. Et pourtant, il a eu quelques idées assez géniales par le passé concernant la distillation des vins. Alors, il faut vous dire que Édouard Adam est né en 1768 et qu'il est décédé à Montpellier en 1807, pour que vous puissiez un peu le situer. Alors, quelle est la situation de la viticulture à la fin du XVIIIe siècle? Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu beaucoup de progrès en viticulture à partir des années 1760. Notamment, il y a eu la fondation d'un certain nombre de sociétés d'agriculture, et puis la Société royale des sciences de Montpellier s'est aussi intéressée à la vinification et à la distillation du vin. À cette époque-là, figurez-vous qu'on ne savait pas si l'alcool dans le vin préexistait dans le vin ou si c'était la distillation qui fabriquait de l'alcool. Alors un certain nombre de savants sont arrivés, par exemple l'abbé Rosier à côté de Béziers avait fait un centre d'expérimentation où il essayait différents types de cépages et il a publié un cours complet d'agriculture et de vinification. Ensuite, Jean-Antoine Chaptal a emboîté le pas et ces deux-là sont des hommes qui ont introduit un peu la chimie dans la science du vin. Et notamment, tout le monde connaît l'histoire de la chaptalisation. C'est Chaptal qui a réalisé que quand on mettait un peu plus de sucre dans le moût de raisin, eh bien, on augmentait le degré alcoolique. Voilà, donc en fin de XVIIIe siècle, il y a trois types d'activités qui sont engendrées par le vin. C'est la fabrication des bouteilles d'abord, fabrication industrielle, puis la fabrication des futailles, de la tonnellerie. Et à Montpellier, les tonneliers étaient rue de la Barallerie, parce qu'un barallier, c'était un tonnelier. Vous savez, la rue de la Barallerie, qui est pas très loin de la place de la préfecture, alors elle continuait jusque vers les Halles Castellane, et elle a été coupée en deux lorsque l'on a mis en place la rue Foch. Mais donc, les baralliers étaient justement dans cette rue de la Barallerie. Et troisième activité, eh ben, celle qui va nous occuper aujourd'hui, c'était la distillation du vin. Parce qu'on faisait un vin qui avait un degré pas extraordinaire, qui supportait mal le transport. Donc, pratiquement la moitié de la fabrication du vin qu'on faisait en Languedoc était distillée. Et alors, le système pour faire cette distillation et obtenir des eaux de vie, ou plus exactement ce que l'on appelait du 3-6. Alors, le 3-6, c'est un concentré, si vous voulez, qui titre à peu près 86-87 degrés d'alcool. Et ce qu'on appelle le 3-6, c'est ce concentré d'alcool avec trois quantités en poids de 3-6, auxquelles on ajoute trois quantités en poids d'eau, on obtient une eau de vie classique à 45 degrés. Donc le 3-6, en fait, on l'exporte par le port de Sète vers les ports de l'Atlantique et également vers les ports de la mer du Nord et de la Baltique qui sont de gros consommateurs. Quand ça arrive dans leur pays, on rajoute la quantité d'eau qu'il faut et on a ainsi exporté des eaux de vie. Voilà. Alors, pour fabriquer ce 3-6, eh bien, on avait des chaudières, on distillait avec des alambics classiques, on distillait ce vin. Alors on le distillait une première fois pour le concentrer un petit peu, puis ensuite le distillat qu'on obtenait, on le redistillait une deuxième fois, etc. Il fallait en gros facilement 5 à 6 passages, 5 à 6 distillations successives pour obtenir le 3-6, obtenir ce concentré qui titrait entre 86 et 87 degrés d'alcool. Donc c'était quelque chose de très onéreux, d'assez compliqué et qui dépensait beaucoup d'énergie. Alors il y avait énormément de ce qu'on appelait des chaudières. Par exemple à Sète, il y avait une cinquantaine de chaudières. À Calvisson, en 1770, il y avait 18 propriétaires qui se partageaient 45 chaudières. À Galargues-le-Montieux, village à côté, il y avait 36 chaudières. Donc tous ces gens qu'on appelait les brûleurs du Languedoc utilisaient soit du charbon, soit du bois, et ces 4 à 5 distillations successives donc permettaient d'obtenir le fameux 3-6. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Édouard Adam, qui est né à Rouen, donc en 1768, son père vendait des mousselines et des tissus, et il a pris la succession de son père, et puis finalement, la Révolution arrivant, le commerce du tissu ne marchant pas, ben il a voulu aller dans le Midi en se disant « on va peut-être trouver un nouveau boulot ». Il est arrivé à Nîmes, il a suivi les cours de l'école centrale de Nîmes, avec comme professeur un dénommé Solimani, qui était médecin diplômé de la faculté de médecine de Montpellier. Et lorsque il suivait ses cours, un jour il a observé ce que l'on appelle un barboteur. Alors un barboteur, c'est une espèce de bouteille qui est fermée en haut avec un tube plongeur. On fait arriver un gaz ou de la vapeur dans cette bouteille au fond de laquelle on a mis un liquide. Et puis sur le côté de la bouteille, il y a un petit trou où il y a un branchement si vous voulez. Et donc on peut faire barboter, ça fait des bulles. Hein. Quand l'air arrive dans le tube plongeur, ça fait des bulles pour le liquide qui est au fond de la bouteille. Et il s'est aperçu que lorsqu'on envoyait une vapeur chaude, une vapeur d'eau par exemple, dans le barboteur, eh bien au bout d'un moment, l'eau qui était à l'intérieur du barboteur se mettait à bouillir, se réchauffait petit à petit et se mettait à bouillir. Et alors, ça a été une révélation pour lui, cette observation, parce que c'était quand même quelqu'un qui était assez observateur. Et il a eu l'idée, si vous voulez, de mettre en série plusieurs de ces barboteurs pour faire une distillation. Donc au lieu de faire une distillation classique, de récupérer le distillat, de le remettre dans l'alambic et de redistiller, etc., 5 ou 6 fois, eh bien, il a fait un appareil qu'on a appelé l'appareil distillatoire d'Édouard Adam, un appareil qui est composé de 3 parties. D'abord, il y a l'alambic ou chaudière dans lequel il met du vin et qu'il va chauffer avec du bois ou avec du charbon, peu importe. Ensuite, il met en série dans une partie qu'on appelle l'appareil distillatoire proprement dit, l'équivalent de 4 barboteurs en série. Et puis après ces 4 barboteurs en série, il y a la partie que l'on appelle l'appareil de condensateur, et cet appareil condensateur est constitué par 6 compartiments qui sont vides, hein, mais qui vont permettre de déposer encore une quantité d'eau. Alors voilà comment ça marche. Dans l'appareil distillatoire, dans les barboteurs, il dispose du vin, et il met du vin également dans son alambic de départ. Il chauffe l'alambic de départ. Donc à ce moment-là, c'est la partie la plus volatile du vin, c'est-à-dire essentiellement forcément l'alcool avec une partie du vin qui va s'élever, qui va arriver dans le premier barboteur, qui va, où il y a du vin, qui va réchauffer le vin qui est dans ce premier barboteur, mais va s'évaporer une quantité de liquide qui sera enrichie en alcool. Ensuite, dans le deuxième barboteur, va arriver un nouveau mélange riche en alcool, plus riche en alcool, et va s'élever au bout d'un moment de nouveau une vapeur qui sera encore plus riche. Donc, de barboteur en barboteur, on a un liquide qui est de plus en plus riche en alcool. Et à la sortie, dans les condensateurs, eh bien, on refroidit ce liquide et c'est l'eau qui va se refroidir la première, l'alcool étant plus volatile. Donc au sortir de son appareil, c'est surprenant, mais en une seule chauffe, eh bien, Édouard Adam a réussi à fabriquer un appareil qui, grâce à une seule chauffe, nous permet d'obtenir directement le 3-6, alors qu'avant il fallait beaucoup de manipulations et 4, 5, 6 chauffes successives. Donc c'est une invention, c'est assez génial, hein, il faut le dire, c'est une invention magnifique. Mais malheureusement, cette invention va être copiée par beaucoup de gens. Alors, l'idée d'Edouard Adam, c'est de fabriquer des appareils, de les commercialiser pour les vendre. Mais pour cela, il faut d'abord avoir un brevet. Donc, il se manifeste à Montpellier auprès de la faculté de médecine et du préfet, et il leur demande à leur montrer sa découverte, son expérimentation. Et on convoque d'ailleurs ce que l'on appelle des brûleurs, c'est-à-dire des gens dont le métier est précisément de faire la distillation des vins pour obtenir ce fameux 3-6. Et cette première expérience va avoir lieu le 29 mars 1801 devant une commission nommée par le préfet. Cette commission comprend monsieur Étienne Bérard, on en reparlera d'Étienne Bérard, qui est le propriétaire de l'usine chimique de la Paille et qui était le collaborateur de Chaptal. Ensuite, il y aura le professeur Virenc, professeur de chimie à l'école de médecine. Il y aura Pierre Roucher, qui est professeur de physique et chimie à l'école centrale. Hein, nous sommes en 1801, l'école centrale existe, on n'a pas encore créé le lycée impérial de Napoléon, qui datera de 1804. Et puis Antoine Duportal, qui est le chef du laboratoire de chimie de la faculté de médecine. Plus deux brûleurs, ce qu'on appelle des brûleurs, donc des spécialistes de la distillation. Et cette première expérience est tellement concluante. En une seule chauffe, on obtient un 3-6 qui titre plus de 80 degrés. Les brûleurs disent « Oh mais c'est pas vrai, vous vous êtes moqué de nous. Vous avez mis du vin auquel vous avez rajouté de l'alcool. Hein, donc ça marche pas. » Alors on dit « D'accord, ben on va recommencer l'expérience. » On va faire une deuxième expérience, mais cette fois-ci, c'est les brûleurs qui vont apporter leur vin à eux. Comme ça, on ne pourra pas contester le résultat. Et le 30 mars 1801, on fait la deuxième expérience. Et cette deuxième expérience montre qu'effectivement, ça marche. Il n'y a pas à dire. Donc, le 29 mai 1801, Édouard Adam dépose un brevet qui a pour titre « Procédé à l'aide duquel on retire du vin par une seule chauffe la totalité de l'alcool qu'il contient ». Voilà. Alors par la suite, il va apporter quelques perfectionnements à son appareil, parce que par exemple, son appareil, c'était un appareil qui était entièrement en cuivre, et les brûleurs avaient un peu la forme d'un parallélépipède. Et on s'aperçoit qu'après plusieurs expériences, il se dépose dans les coins de ces parallélépipèdes un petit peu de tartre, qui donne mauvais goût au 3-6 que l'on obtient. Donc il va remplacer ces parallélépipèdes par des brûleurs qui auront une forme ovoïde, tout simplement la forme d'un œuf, n'est-ce pas ? Donc il y a plusieurs brûleurs qui se suivent et qui ont tous la forme d'un œuf. Également, pour faire des économies d'énergie, on utilise de l'eau pour refroidir à la fin le distillat, le 3-6, pour qu'il se condense. Eh bien, l'idée, ça va être d'utiliser du vin qui, du coup, va se réchauffer et qu'ensuite, ce vin réchauffé, on va l'envoyer dans l'alambic. Donc, on va faire une économie d'énergie puisque le vin va arriver dans l'alambic déjà à une certaine température. Voilà. Donc là, il va poser ce qu'on appelle un brevet de perfectionnement. Et au bout de 1805, il va pouvoir commencer à fabriquer son appareil. Il va construire une vingtaine d'appareils. Chaque appareil coûte entre 20 000 et 25 000 francs pièce. Et grâce à ces appareils mis au point, en 24 heures et en 4 distillations en 24 heures, on arrive à distiller 122 hectolitres de vin qui vont donner entre 18 et 19 hectolitres de 3,6. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire et c'est un progrès considérable. Puis notre ami Édouard Adam se dit, mais finalement cet appareil il est quand même assez cher et il va bien pour des grandes brûleries, mais il y a des tas de petits brûleurs, des tas de propriétaires qui n'ont pas de quoi utiliser un appareil aussi important. Donc il va faire un appareil simplifié qui coûte moins cher et qui permet de distiller des quantités moins importantes. Alors cet appareil simplifié va coûter entre 5 000 et 6 000 francs. Il sera soumis en 1807 à une commission, mais il n'a pas le temps, ce brave Édouard Adam, de faire breveter cet appareil simplifié de 1807, puisqu'il va mourir en 1807 précisément. Et le nouvel appareil sera breveté en fait par les trois frères d'Édouard Adam, qui s'appellent Henri, Zacharie et Frédéric. Alors c'est intéressant de breveter ce deuxième appareil, puisque figurez-vous que la Révolution avait supprimé ce qu'on appelle le privilège des bouilleurs de crue, c'est-à-dire le privilège des bouilleurs de crue, c'est-à-dire que chaque propriétaire avait la propriété, la faculté de distiller son propre vin, et s'il le consommait sur place, eh bien, il ne payait pas de droits et de taxes. C'est le privilège des bouilleurs de cru qui va être rétabli par Napoléon en 1808. Donc ça va redonner, si vous voulez, un certain intérêt aux appareils inventés par notre ami Édouard Adam. Alors, les avantages de l'appareil d'Édouard Adam, c'est donc qu'on obtient le 3,6 en une seule chauffe, on améliore le rendement par rapport aux appareils précédents, et puis, on fait 40% d'économie, 40% d'économie de combustible, et on peut faire l'opération avec un seul homme, alors que précédemment, il fallait 4 hommes pour faire fonctionner les appareils à distiller. Mais tout cela est un peu trop beau. Un peu trop beau, et c'est là qu'il nous faut maintenant parler des malheurs d'Édouard Adam. Ce pauvre Édouard Adam a donc déposé un brevet. Mais son idée, pour géniale qu'elle était très facile à imiter. Et résultat, eh bien dans la foulée, il y a une dizaine de contrefacteurs qui sortent un appareil au moins perfectionné que le sien, mais qui donne des résultats quand même meilleurs que l'ancien système. Donc, il surveille jalousement son invention. Et il va traîner devant les tribunaux les gens qui l'ont imité. Alors ce qui est idiot, c'est que, vous savez, la justice ne comprend pas toujours. Les juges, ils pigeaient pas quel était l'intérêt de l'invention trouvée par Édouard Adam. Et un certain nombre de procès se sont terminés par des amendes. Alors, un procès, il a eu le contrefacteur a eu une amende de 24 francs. Mais les frais de justice pour Édouard Adam se sont élevés à 1 800 francs. Donc, il perd des sous. Et puis, d'autres procès, il les a carrément perdus. Donc, finalement, petit à petit, Édouard Adam, il va être ruiné complètement. Alors, quand il meurt en 1807, à Montpellier, dans son appartement de la rue Philippi, juste à côté de Sainte-Anne, eh bien, sa femme et ses renoncent avec ses deux enfants, à l'héritage, parce qu'il a une dette qui fait à peu près 400 000 francs. Mais un peu par orgueil, un peu par par soutien filial, ses frères décident qu'ils vont accepter l'héritage et qu'ils vont se battre. Alors c'est eux qui vont déposer le brevet sur l'appareil simplifié d'Edouard Adam et qui vont essayer de le commercialiser. Mais ils vont avoir eux aussi toute une série de procès sur les bras. Ce qui fait que Henri, Zachary et Frédéric, les deux frères, finalement, ne s'entendent pas entre eux. Henri et Frédéric vont renoncer à l'héritage. Zachary va finalement accepter de réunir les brevets qu'il a avec ceux de deux contrefacteurs qui sont Solimani, qui était l'ancien professeur à l'école centrale de Nîmes d'Edouard Adam, et un dénommé Fournier qui était pharmacien à Nîmes. Donc l'histoire va se terminer comme ça. Zachary s'associe avec Solimani et Fournier en 1810 pour faire l'exploitation de ce produit. Alors il se trouve que le système d'Edouard Adam est assez révolutionnaire et ça, c'est le point de départ d'une recherche sur la distillation, et en quelque sorte les appareils d'Edouard Adam sont un peu les ancêtres des distillations, des appareils, des colonnes à distiller que l'on va avoir dans l'industrie chimique en particulier, et puis plus tard dans l'industrie du pétrole. Alors petit à petit, l'alcool de vin va perdre de la place devant l'alcool de betterave, puisque vous savez qu'après le blocus continental, on va implanter en France la betterave sucrière, et c'est l'alcool de betterave qui va un peu supplanter et concurrencer l'alcool de vin. Ce qui fait que dans les années 1840, il y a plus que 20% de la consommation de la récolte de vin qui va être distillée. Alors qu'avant c'était pratiquement la moitié. Alors il y a une suite. Ben la suite, c'est que la famille, trouvant quand même que Edouard Adam n'est pas assez honoré, etc., va demander à ce que à Montpellier on élève une statue à la gloire d'Edouard Adam. Et en 1860, je vous rappelle qu'il est mort en 1807. En 1860, on va élever sur l'esplanade une statue à la gloire d'Edouard Adam. Il est debout à côté d'un appareil à distiller. Et puis quand on va faire la gare du petit train de Palavas, on va déplacer cette statue sur la place qui se trouve, qu'on appelait la place de la Sonnerie à l'époque, qui se trouve entre la Grand-Rue et le début de la rue de la Sonnerie, donc au bas de la Grand-Rue. Et petit à petit, à partir de 1830, on va appeler cette place la place Edouard Adam, avec cette statue d'Edouard Adam sur cette nouvelle place. Et il se trouve que en 10 décembre 1941, alors que la ville de Montpellier n'est pas occupée, je le précise parce que dans beaucoup de livres, je lis « la statue a disparu pendant l'occupation ». Non, non, Montpellier était une ville en zone libre en décembre 1941. C'est le gouvernement de Vichy qui a créé une commission de récupération des métaux non ferreux qui est arrivée à Montpellier dans l'Hérault et qui a dit au préfet « voilà, on vous laisse trois statues en bronze et on prend toutes les autres ». Et le préfet a répondu, après réflexion sans doute, on garde la statue de Louis XIV au Pérou, la statue de Paul Riquet à Béziers et la statue de Titan supportant le monde, ou Atlas supportant le monde dans le Jardin des Poètes à Béziers. Voilà. Alors la statue a définitivement disparu, la statue d'Edouard Adam. On ne l'a jamais remplacée. Il y a quand même quelqu'un qui a été futé à Montpellier, c'est le doyen Gaston Giraud, qui, quand il a su que cette commission arrivait, s'est dépêché d'enlever la statue de la Péronie, et dont nous parlerons la prochaine fois, et de Barthès, et qui les a cachés dans les caves de la faculté de médecine, et qui les a ressortis après la guerre. Voilà. Donc il a sauvé trois statues de plus. Mais sinon, celle d'Edouard Adam a disparu. Alors il reste une place sur laquelle on a fait en 2006 un très joli trompe-l'œil. C'était le deuxième trompe-l'œil fait à Montpellier, le premier étant celui de la rue de la Méditerranée. Et on ne peut pas quitter cette place Édouard Adam sans regarder ce trompe-l'œil qui s'est intégré sur un mur, une façade de maison. Alors, pour bien intégrer les peintres muralistes qui sont Agnès et Olivier Costa de la société Madar, ils ont prolongé la pharmacie de l'Observatoire avec un caducé. Ils ont mis une librairie, la librairie Adam, puisqu'on est sur la place Édouard Adam. Et en haut, ils ont mis 2006, c'est la date à laquelle ils ont fait ce trompe-l'œil. Ils ont représenté un immeuble qui est exactement l'immeuble qui se trouve en face à l'angle de la Grand Rue et du boulevard de l'Observatoire, à un étage près, parce qu'ils n'avaient pas la place de faire tous les étages. Sur le balcon, ils ont mis un certain Frédéric Basile, puisque je vous rappelle que Frédéric Basile est né dans la Grand Rue, donc pas très loin de ce lieu. Donc on voit un peintre avec une palette, et c'est en fait une reproduction d'un tableau qui se trouve à Chicago, et que l'on appelle l'autoportrait à la palette. C'est Basile qui s'est peint lui-même avec sa palette dans la main. Et ensuite, tout à fait en haut, il y a un monsieur d'une mansarde avec une lunette astronomique à côté de lui. C'est Nostradamus. Alors, il y a quelques erreurs. Par exemple, Nostradamus a le bonnet carré des médecins, alors que, vous savez, quand il est arrivé à Montpellier, il avait fait déjà pas mal d'études d'apothicaire, et les médecins n'aimaient pas du tout les apothicaires. Et quand il a voulu s'inscrire, enfin il s'est inscrit, et puis Rondelet, qui était le procureur des étudiants, qui avait un pouvoir incontestable, hein, le procureur des étudiants à la Renaissance était quelqu'un qui avait une autorité certaine. Rondelet a rayé son nom en disant « Celui-ci, je raye celui-ci parce que il a dit du mal des docteurs et de toute façon il a été apothicaire avant et les médecins ne voulaient pas du tout que des gens qui avaient été apothicaires passent le doctorat en médecine. » Alors, autre chose, comment il s'appelle ? Nostradamus, excusez-moi. Nostradamus était astrologue, il n'était pas du tout astronome, et on a mis à côté de lui une lunette astronomique, ce qui est une erreur, une double erreur, d'une part, parce qu'il n'était pas astronome, et d'autre part, la lunette astronomique a été inventée en 1610 et utilisée pour la première fois en 1610 par Galilée. Et il se trouve que notre ami Nostradamus est mort en 1566, donc on n'avait pas encore inventé la lunette astronomique. Voilà. Alors, s'il me reste quelques minutes, je vais raconter l'histoire de la légende de Nostradamus qui disait que la ville de Montpellier périrait si les pins de la Tour des Pins mouraient. Alors, c'est une légende parce qu'à l'époque de Nostradamus, il n'y avait pas encore de pins. Voilà. Les premiers pins sont apparus sur la Tour des Pins au XVIIe siècle. Donc, c'est amusant. Alors, on a quand même des cyprès, hein, maintenant, qui sont moins dangereux parce qu'ils ont des racines moins profondes que les pins. Mais on les soigne au cas où la légende et la prophétie de Nostradamus, qui est totalement légendaire, s'appliquerait aussi aux cyprès et pas seulement aux pins. À bientôt. Au revoir.